tu vas aller. Allez mon grand. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand.
Muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenues parce que t'es trop gentil.
On m'en fout ce qui arrive en deuxième mi-temps, même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Et on joue dur. Après on perd, c'est pas grave, c'est la vie. Mais moi je préfère perdre en se battant.
Bonjour à nos sportifs et à nos sportives et bienvenue pour un nouveau Time Out. Aujourd'hui, on est très nombreux pour discuter de sport et d'actualité tranquillou bilou. On va avoir deux thèmes principaux aujourd'hui. On va avoir d'abord le dopage avec Miley.
Bonjour.
Et votre serviteur, moi-même. Ensuite, on va parler aussi des femmes dans le sport avec d'abord Manon.
Coucou.
Oban.
Salut.
Et Céleste.
Salut.
Nous sommes le 13 juillet 2022. Pendant que Jonas Vingegaard renverse le Tour de France en s'imposant au mythique et non moins redoutable Col du Granon, il y a un coureur qu'on n'avait plus vu à un très bon niveau depuis plusieurs années qui va aller chercher une magnifique seconde place sur la ligne. En effet, Nairo Quintana, depuis son arrivée dans l'équipe française Arkea Samsic, n'est que l'ombre de lui-même. Mais pendant ce Tour de France, le Colombien de 32 ans va renaître de ses cendres et finir 6e du classement général 10 jours plus tard. De quoi ambitionner un retour au premier plan du cyclisme mondial. Néanmoins, le 17 août, le vainqueur du Giro et de la Vuelta est déclassé de ce Tour de France à cause de deux contrôles positifs au Tramadol, un antidouleur extrêmement efficace, très précieux donc dans le cyclisme. Même si le Colombien a été par la suite licencié de son équipe, il n'a pour autant jamais été suspendu, tout simplement parce que cette substance est interdite par l'Union Cycliste Internationale, mais pas par l'Agence Mondiale Antidopage. Le cas de Nairo Quintana n'est évidemment pas un cas isolé, mais avec la question du dopage qui revient au premier plan, notamment dans le tennis, avec les affaires de Yannick Sinner et Iga Świątek, c'était une bonne entrée en matière pour illustrer les lacunes de la lutte contre le dopage dont on va parler aujourd'hui. Déjà, tout simplement, la définition du dopage. Selon le Larousse, le dopage est le fait d'administrer, d'inciter à l'usage, de faciliter l'utilisation en vue d'une compétition sportive, de substances ou de procédés de nature à accroître artificiellement les capacités physiques d'une personne ou d'un animal ou à masquer leur emploi en vue d'un contrôle. Alors, ce phénomène, il s'est rapidement répandu à partir des années 50, en cohérence du coup avec le développement de la professionnalisation des athlètes et des avancées de médecine sportive. Tout ça, ça a incité à la création de l'Agence mondiale antidopage en 1999, qui lutte donc contre le dopage dans le sport. Alors, même si c'est largement répandu au cours du XXe siècle, comme on vient de le dire, le dopage, ça existe depuis que la compétition existe, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, et c'est assez logique. L'objectif des sportifs est de se surpasser et de vaincre ses adversaires. Et si tu perds, t'es pas content. Donc tu fais en sorte de gagner, même si ça frôle les limites éthiques et ou légales. Alors évidemment, les techniques de dopage ont, elles, évolué, vous vous en doutez bien. Par exemple, lors des jeux antiques, donc il y a plusieurs millénaires, les sauteurs en hauteur mangeaient de la viande de chèvre pour avoir leur agilité et les gladiateurs mangeaient des coronesses de taureau pour avoir leur force. Alors, normalement, c'est plus trop le cas maintenant. On parle du dopage dans le sport, mais ça ne représente que la partie visible de l'iceberg, et le dopage est en réalité omniprésent. Les Andins, par exemple, prenaient des feuilles de coca pour lutter contre la faim, contre la fatigue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes de la Royal Air Force britannique ont consommé plus de 72 millions de cachets d'amphétamines, et même aujourd'hui, on consomme des boissons énergisantes, du café, etc. Donc tout ça, c'est des psychotropes qui sont extrêmement efficaces, et qui, consommés à grande échelle, peuvent être considérés comme des produits dopants. Parenthèse terminée, on revient au cas du sport, parce que c'est ça qui nous intéresse. On a rapidement évoqué l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, mais on va revenir un peu dessus, parce que c'est assez important. Donc, vous l'avez compris, c'est elle qui supervise la lutte antidopage, et c'est dans ce cadre-là qu'a été établi le Code mondial antidopage, qui vise donc à harmoniser toutes les règles dans la lutte contre le dopage, et ce, dans globalement tous les sports. Cependant, c'est ce qu'on a vu avec le cas de Nairo Quintana en introduction, il y a encore certaines lacunes qui empêchent à l'AMA, comme aux fédérations internationales, de faire fonctionner pleinement la lutte contre le dopage. L'AMA a été créée en 1999, après de nombreuses années où certes, il y a eu des avancées, mais globalement, c'était quand même la foire à la saucisse, c'est-à-dire que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Vous allez dire que je ramène tout au vélo, et vous auriez raison. Mais là, pour le coup, c'est à juste titre. Puisque ce qui va faire changer les choses de manière pérenne, c'est l'affaire Festina, qui va éclater pendant le Tour de France 1998. Alors pour résumer à ceux qui étaient pas nés, ce qui est mon cas, le 8 juillet 1998, soit 3 jours avant le début du tour, Willy Voet, médecin belge de l'équipe française Festina, est arrêté à la frontière franco-belge avec plus de 400 flacons de produits dopants en sa possession. Il dénonce 3 jours plus tard un dopage organisé au sein de son équipe et rapidement, les têtes vont tomber les unes après les autres. D'abord, le directeur de l'équipe, Bruno Roussel, puis beaucoup de coureurs, Richard Virenque, Laurent Brochard, Alex Zülle, pour ne citer qu'eux. Et c'est vraiment des coureurs ultra importants dans le peloton de la fin des années 90. Richard Virenque, c'est une des grosses stars du cyclisme français. Laurent Brochard, il a été champion du monde quelques années auparavant. Donc, résultat, l'équipe Festina sera finalement exclue du Tour de France le 17 juillet, chez pour eux. Mais donc là, on est en 1998. Un an, si vous avez suivi, avant la création de l'AMA. Donc on peut facilement estimer que c'est cette affaire qui a poussé à avoir vraiment une instance qui régule et contrôle le dopage. Et c'est vrai que c'était nécessaire, parce que même le président de l'UCI à l'époque, donc l'UCI c'est l'Union Cycliste Internationale, Hein Verbruggen, estimait que le dopage n'était pas un problème en soi. Mais en tout cas, cet immense scandale qui est celui de l'affaire Festina a permis de mettre en exergue la puissance de l'EPO et a vraiment lancé la campagne de lutte contre le dopage. Cependant, même si l'AMA et beaucoup d'autres agences nationales sont opérationnelles dès les Jeux de Sydney en 2000, ça n'empêchera pas de détecter pas moins de 10 cas de dopage en Australie, principalement en lutte et en haltérophilie. Alors, même si le dopage est une pratique extrêmement répandue dans le sport de haut niveau, la discipline qui en a le plus pâti, c'est bien évidemment le cyclisme, qui subit encore aujourd'hui les foudres liées aux nombreuses polémiques entre la mort de Tom Simpson sur une étape du Tour de France en 1967 et les révélations de Lance Armstrong en 2012, qui avouera s'être dopé lors de ses 7 victoires sur la grande boucle. Résultat aujourd'hui, les soupçons sont omniprésents sur les coureurs, aussi bien Chris Froome il y a quelques années que Tadej Pogacar aujourd'hui. Néanmoins, c'est loin d'être le seul sport touché par des scandales de dopage. La natation est aussi victime de ce fléau. En 2021, 23 nageurs chinois sont contrôlés positifs à des contrôles antidopage, mais non suspendus. D'ailleurs, plusieurs ont concouru lors des Jeux de Paris. Là encore, c'est bien une preuve des lacunes persistantes dans la lutte contre le dopage, puisque après l'enquête, ces 23 nageurs chinois auraient été contaminés via de la nourriture. Cependant, c'est très délicat de faire la part des choses, puisqu'il est vrai qu'on retrouve dans la nourriture ou dans certains médicaments des produits qui, consommés à forte dose, peuvent être considérés comme dopants. C'est d'ailleurs la justification donnée par beaucoup de sportifs actuels. Yannick Sinner, contaminé via des crèmes de massage et blanchi, ou Iga Swiatek, contaminé à la trimétazidine via des médicaments pour le sommeil et la gestion du décalage horaire. Cependant, là encore, il y a des failles importantes, puisque comment tu fais la différence entre un sportif qui s'est dopé volontairement et quelqu'un contaminé à son insu? Et quand bien même tu imposes des seuils maximums en dessous desquels on estime que tu es clean et que c'est du dopage non intentionnel, tu vas toujours avoir des gens qui vont flirter avec la limite volontairement parce que les gains marginaux sont quand même très intéressants pour les sportifs. Après, encore une fois, on a parlé des cas de la natation, du tennis et celui surmédiatisé du cyclisme, mais en vrai, le dopage, il est présent dans tous les sports et présente des vraies conséquences sur l'état physique du sportif. On peut citer dans ce sens les joueurs de l'équipe de rugby sud-africaine, championne du monde en 1995. Alors oui, c'est un moment extraordinaire dans l'histoire du pays, qui sort de l'apartheid et qui remporte la Coupe du Monde. Néanmoins, il y a 4 membres de cette équipe qui sont décédés très prématurément, tumeur, maladie de Charcot et arrêt cardiaque, soit des décès qui sont assez suspects pour des personnes de 40 ans et qui sont venus relancer la question de leur dopage lors de la Coupe du Monde 95, idée d'ailleurs globalement confirmée par le capitaine Sudaf dans ses mémoires. On va se pencher sur un cas beaucoup plus spécifique, celui des athlètes soviétiques pendant les Jeux Olympiques. À toi Maïli.
Merci PA pour cette petite transition. Alors, la Russie est sujette à de nombreux scandales de dopage. Elle est notamment exclue des compétitions internationales de 2020 à 2022 pour avoir falsifié des données de contrôle antidopage et pour être à l'origine d'un système de dopage institutionnalisé. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir à la cause de cette utilisation récurrente du dopage. Retournons donc ensemble au début de la guerre froide. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, à l'international, on s'accorde pour dire que jamais il n'y en aurait une troisième. La guerre précédente a marqué les esprits. Et les pays, bien que parfois en désaccord, essayent de maintenir un climat de paix. L'URSS et les États-Unis rentrent donc dans une guerre dite « froide ». Ce conflit se caractérise par une absence d'attaque directe. Les deux pays se confrontent, entre autres, sur le plan économique, géopolitique, scientifique et sportif. Pour dominer les États-Unis, l'URSS veut créer une élite sportive avec des athlètes surnommés par la suite les « héros du sport ». C'est à ce moment-là que se met en place la « machine rouge ». Elle fait référence à la création de ces élites, mais surtout à la stratégie utilisée pour les créer. L'URSS investit dans une organisation sportive, stricte et réfléchie. Cette usine à fabriquer des champions prône l'excellence, mais se révèle extrêmement destructrice. Cette mentalité ne se limite d'ailleurs pas au sport. Elle concerne aussi les échecs, avec 18 victoires pour seulement 19 participations à l'Olympiade des échecs, ainsi que le ballet. La danse classique à la russe veut l'excellence dans chaque détail. Un perfectionnisme qui a construit la réputation du Bolchoï, un théâtre et une compagnie extrêmement sélective et nationaliste, qui est un élément important du patrimoine du pays. Les soviétiques veulent une victoire à chaque fois écrasante. On parle de la politique du sportman soviétique. Pour la grandeur du pays, ils visent l'excellence au détriment de leurs athlètes. L'entraînement est dur et les restrictions sont nombreuses. Cette machine rouge les enferme et limite leur interaction avec l'extérieur. Lors des compétitions internationales, pour booster ses héros du sport, l'URSS utilise des substances dopantes. On a le cas de Andreas Kerger, qui finit transitionné contre sa volonté. Le dopage ne s'arrête pas là, car l'URSS mettait enceinte ses sportives. Il obligeait ses gymnastes à coucher avec leur entraîneur peu de temps avant les JO, puis il les faisait avorter juste après. Ces faits n'ont malheureusement jamais été reconnus, malgré de très lourds soupçons. Les 90 jours de grossesse permettent de booster les capacités des athlètes avec la sécrétation d'estradiol et pour certaines de testostérone, mais aussi d'augmenter la souplesse par la relaxation des muscles et ligaments dus à la progestérone. Et enfin, on l'oublie trop souvent, mais l'arrêt des menstruations est un réel avantage, car c'est une charge mentale en moins, et ça limite le risque que ses capacités soient influencées par son cycle hormonal. Bien sûr, le fait d'être enceinte n'est pas salvateur pour toutes, car une femme sur trois risque de ne pas supporter la sécrétation hormonale. Elles peuvent être sujettes à des vomissements, des affaiblissements et des crampes. On suppose que le dopage par l'avortement des soviétiques a commencé en 1956 avec les JO d'été de Melbourne. Il s'agit de la première année où les JO ont été télédiffusés. Lors de cette compétition, l'URSS a gravi le haut du podium en amassant 98 médailles, compte 74 pour les États-Unis et 35 pour l'Australie, arrivés respectivement deuxième et troisième. Le premier témoignage direct est celui d'Olga Karasiova en 1994 auprès de la chaîne RTL allemande. Elle dénonce l'obligation d'être enceinte pour sa participation aux JO de 1968 à Mexico, où l'URSS a gagné 91 médailles et est arrivée deuxième. Malheureusement, elle nie par la suite ce témoignage et porte plainte contre RTL et contre un journal russe qui a relayé la nouvelle. On peut poser la question d'une censure nationale. La Russie, à l'image de l'URSS, est un pays très fermé qui doit préserver une bonne image à l'international. Mais on peut aussi objecter que depuis toutes ces années, on aurait eu d'autres témoignages ou plus d'histoires qui corroborent cette version. Alors, censure nationale ou réel faux témoignage? Mais même s'il y a de lourds soupçons, ces dopages par l'avortement n'ont jamais été reconnus. De plus, le fait d'être enceinte n'est pas reconnu comme ayant un effet dopant, car il n'y a pas de données scientifiques sur le sujet. Les expériences sur les humains étant interdites, le dopage par la grossesse ou l'avortement risque de ne jamais être reconnu. Mais c'est pour le mieux, car il pourrait naître des restrictions pour les sportives, qui ne pourraient plus tomber enceinte quand elles le veulent. En plus, le fait de catégoriser la grossesse comme un effet dopant ne serait pas souhaitable et moralement répréhensible.
Du coup, tout ça, ça soulève une question. C'est, est-ce que vous pensez que les instances internationales, que ce soit l'Agence mondiale antidopage ou même les fédérations sportives internationales, ou même nationales d'ailleurs, luttent assez et de la meilleure manière contre le dopage? Est-ce que la lutte contre le dopage, selon vous, est efficace?
Ça dépend, je pense, les sports déjà. Le tennis, je trouve que, par exemple, ça va, c'est pas mal contrôlé. Le football aussi. Mais je pense qu'il y a, oui, comme tu disais dans ta chronique, il reste des endroits où c'est assez flou au niveau du règlement et des lois, ce qui fait que beaucoup passent au travers.
Comme tu dis, au tennis, c'est assez contrôlé, mais au final, le résultat n'est pas probant. Il n'y a pas des sanctions vraiment sévères. On l'a vu notamment, comme tu disais, avec Yannick Sinner, où tout le monde a été choqué un peu de la décision prise.
Ouais, c'était pas ça. La seule, enfin c'était pas le seul en plus au tennis.
Ouais, non, il y a eu Gazzetta, qui a eu Simona Halep aussi. Où c'est des situations un peu particulières et similaires parce que c'est visiblement ce serait des contaminations alimentaires.
Ce serait pas dû aussi à des antibiotiques ou des médicaments qu'ils ont eu parce qu'ils étaient malades. En fait, c'est super compliqué aussi d'avoir. Enfin, en fait, il faut faire aussi son propre jugement. Pas nous, mais je parle des médecins, etc. Parce qu'il y a des médicaments que t'es obligé de prendre, qui sont malheureusement considérés comme des produits dopants, mais qui ne sont pas dans ce but-là.
Ça peut être aussi compliqué pour l'athlète, au bout d'un moment, de se soigner, ou il va plus oser rien faire, quoi. Mais c'est vrai que Simona Halep, elle a eu une sanction assez lourde par rapport aux autres. Elle n'en était vraiment pas ravie, quoi. Elle s'est vraiment plaint.
Ouais, c'est ça, il y a un peu un décalage entre certaines sanctions, alors que c'est des situations qui sont similaires. Donc du coup, c'est pour ça que cette question est pertinente, quoi, parce que... je trouve qu'il y a un peu un manque d'égalité en fait, vis-à-vis des athlètes. Il y a certaines stars, genre Yannick Sinner, il sort d'une saison extraordinaire où il a globalement écrasé le circuit de tennis. Et on lui donne 2 semaines de sanctions, je crois.
Ouais, après, il faut relativiser parce qu'en Formule 1, c'est quand même un ban à vie. Tu peux plus jamais courir en Formule 1 si tu as quoi que ce soit, une trace de cannabis ou je sais pas quoi. Mais du coup, oui, il y a vraiment une différence entre tous les sports. Il y en a certains où c'est un peu plus flexible et il y en a d'autres... vraiment, il y a tolérance zéro.
Je pense que ça va beaucoup évoluer avec les avancées scientifiques, tout ça. On va réussir à dissocier les produits dopants de ce qu'on prend habituellement, ce qu'il y a dans la nourriture, etc.
Ouais, mais après, le problème, c'est aussi que les produits dopants les médecins qui font du dopage auront toujours une longueur d'avance sur les instances. Puisque du coup, c'est eux qui dictent les avancées en termes de législation. Donc du coup, ils auront toujours un temps d'avance. Donc si les avancées scientifiques avancent, ça veut dire que le dopage aussi avance. Et que du coup, il y a plus de dopage et des techniques différentes de dopage.
Oui,
c'est pour ça que c'est très délicat, quoi.
Il y a plus de choses pour contourner le système. Et à la fois, le système avance aussi très vite. Mais je pense que ça va s'équilibrer.
Et puis après, il y a aussi une frontière entre soins et dopage. Genre, la frontière peut vite être floue.
Ouais.
Il y a ça beaucoup dans le vélo où récemment, ils ont interdit le monoxyde de carbone qui est beaucoup utilisé dans les équipes parce que ça améliore les performances. Mais en même temps, c'est un produit de soins très efficace. Donc du coup, c'est un peu délicat de
Peut-être qu'il faudrait juste au moins être transparent sur tous les produits qu'on prend pour éviter justement de se retrouver dans cette situation de « Ah, mais t'as pris un produit dopant. Ah bon, mais je croyais que je me soignais juste. » Et peut-être juste plus déclarer les produits que tu prends. Et là, quand tu les caches, oui.
Après, le fait de déclarer, est-ce que ça va pas remettre en question, pour certains, le côté performance sportive, où ils vont être en mode juste ils se dopent et c'est celui qui va se doper le plus. Et c'est pas le but de montrer trop ça. De dire, ils prennent des choses qui peuvent être dopantes. Les gens peuvent l'interpréter en mode, ils prennent des produits dopants et on a perdu la valeur du sport.
Bah, ce qui n'est pas vraiment le cas. Là, c'est pas le but de parler de produits dopants, mais plus de médicaments. Enfin, je prends en exemple...
Complètement transparent sur les médicaments que tu
prends. Oui, genre par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai dû prendre un produit qui était considéré comme un produit dopant. Mais pourtant, c'était juste parce que j'avais pas le choix, c'était un traitement. Et donc, juste au moins, l'idée, c'est juste enregistrer tous les médicaments que tu dois prendre. Comme ça, au moins, quand il y a ces tests antidopage, il a pris ce truc-là pour ça. Donc, au moins, ça permettra aussi de trouver une explication et d'être plus juste au niveau des sanctions aussi.
Après, le problème, c'est que ça crée aussi une grosse pression sociale, enfin mentale pour l'athlète. C'est-à-dire que s'il se trompe de médicaments, tout de suite, la sanction, elle tombe, quoi. Donc, c'est un peu compliqué.
C'est quand même le cas à la fin.
Ouais, c'est vrai.
C'est pour ça aussi qu'il faut bien s'entourer d'un staff très compétent.
Exactement.
Mais après, cette idée, je trouve aussi de il faut pas du tout se doper ou faire gaffe avec les médicaments, c'est aussi revenir à cette idée d'avoir le sport au grec, quoi. Rien que le muscle pur et dur, mais je me dis aussi, on a fait des sacrées inventions qui peuvent aider l'homme, notamment avec les médicaments, et si on enlève ça, ça peut mettre quand même du monde en sacré pétrin.
Ouais. Après, le problème, c'est qu'il y a aussi des conséquences physiques et en termes de santé pour les gens qui se dopent, donc... Je pense que c'est aussi surtout pour ça qu'il y a toutes ces sanctions, parce qu'à terme, c'est dangereux pour la santé, quoi. Bon, et après ce débat très intéressant, on peut passer à la chronique d'Oban qui va nous parler de tennis et d'une athlète russe.
Oui, pour ma part, je vais vous parler d'une petite pépite venue de l'Est. Connaissez-vous Ksenia Efremova ? Si ce nom ne vous dit rien, il deviendra d'ici peu l'un des plus suivis de la sphère tennistique. Jeune joueuse professionnelle à seulement 15 ans, Ksenia Efremova déchaîne les passions et enflamme les médias. Pourquoi, me diriez-vous ? Tout simplement car elle représente la figure montante du tennis français. D'origine russe, l'athlète naturalisée française en septembre 2023 s'est très tôt entourée des meilleurs, à commencer par sa mère, Julia Efremova, elle-même ancienne joueuse professionnelle à la 283e place mondiale en 2006. Chez la Muratoglu Academy depuis 2019, Ksenia a réalisé une ascension fulgurante dans le classement WTA jusqu'à son classement actuel, 812e mondial. Elle confie notamment à Prime Video ses ambitions d'entrer dans le top 200 mondial et de remporter les Grands Chelems juniors. Un projet cohérent lorsque l'on sait qu'à seulement 14 ans, elle décrochait son premier titre chez les pros à l'ITF 15 000 $ de Monastir, faisant d'elle la plus jeune vainqueur d'un tournoi sur le circuit professionnel ITF depuis 2003. Un parcours qui lui verra être judicieusement attribué d'une wildcard à l'Open d'Australie Junior 2024, son tout premier major, puisqu'elle ira se hisser jusqu'au quart de finale. Des résultats probants pour un si jeune âge qui s'explique assez facilement lorsque l'on la regarde jouer. Malgré son petit gabarit, sa force de frappe étourdissante mêlée à une intensité digne d'une pile électrique a très vite impressionné son entraîneur Pierre Debrosse, la qualifiant de grande bosseuse. Si elle doit son talent indéniable à ses coachs et à sa ténacité, sa maturité hallucinante est sans doute le reflet d'un événement tragique survenu dans sa tendre enfance. Le décès de son père en 2021 aurait pu broyer ses rêves comme ceux de son frère, ex-numéro 1 russe des moins de 12 ans. Mais la jeune prodige est dotée d'une force de résilience à toute épreuve. Sa mère confiera à l'équipe qu'elle a joué le lendemain avec 39,5 de fièvre, puis a gagné le tournoi. pour son père. Si celle pour qui la haine de la défaite couplée à une envie viscérale de gagner est un moteur, n'a été mise sur le devant de la scène en tant que future star du circuit féminin que récemment, cela fait sans doute écho à de nombreux talents promis à un avenir radieux, dont son homologue Anna Kournikova, qui ont fini par se brûler les ailes. Maintenant, on se tourne vers Manon pour une chronique sur la F1.
Merci. Au menu aujourd'hui, je vous propose de parler des femmes dans le sport automobile et des dernières nouvelles de la F1. Même si il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on enregistre ceci avant la présentation des voitures à l'O2 Arena. Alors, ce n'est pas souvent que nous avons vu des femmes en Formule 1 en 75 ans d'existence. 778 pilotes, nous avons eu que 5 femmes pilotes de F1 qui ont concouru pendant un maximum de 3 saisons. Nous avons eu Leila Lombardi, Maria Teresa de Filippis, Divina Galica, Desiree Wilson et Giovanna Amati. L'une des femmes pilotes les plus célèbres était Leila Lombardi, qui a concouru entre 1974 et 1976 et a participé à 12 courses et a terminé 7e pour son meilleur résultat de carrière. La F1 est le summum du sport automobile et aujourd'hui, plus que jamais, la compétition pour atteindre le sommet est difficile. Karting et autres séries monoplaces, cette compétition intense entre les 4 continents rend difficile pour quiconque d'atteindre ce niveau de talent. Actuellement, nous avons une femme en F3, Sophie Affleur. Avec des tentatives de féminisation de ce sport, à travers des initiatives telles que la série W, une F4 réservée aux femmes, nous avons maintenant la F1 Academy, dirigée par la femme qui était le plus proche d'obtenir un siège en F1 dans les années 2010, Suzy Wolff. 15 pilotes conduisent en F4 lors de plusieurs courses du calendrier de la F1, comme les catégories F3 et F2. Bien qu'il y ait eu des critiques, notamment sur les sponsors et la distribution télévisée, il y a des changements depuis le début de 2023. Les pilotes reçoivent désormais plus de reconnaissance que par avant, puisque toutes les pilotes ont rejoint l'Académie de développement des pilotes des équipes de Formule 1 et sont désormais télévisées sur la même chaîne que la F1. En dehors de la F1, il existe d'autres initiatives dans le motorsport comme les Iron Dames. Il s'agit d'une équipe et d'un collectif principalement dirigés par des femmes avec des pilotes exclusivement féminines qui conduisent dans les catégories telles que les courses d'endurance, IMSA, GTVC, VEC, et elles ont remporté plus d'un podium en arborant une voiture rose, ce que je trouve vachement cool d'ailleurs. On peut noter que les Iron Dames sont aussi en F1 Academy, avec leur coureuse Doriane Pin, qui, avec des bons résultats en endurance, a intégré la Mercedes Driver Academy, et court maintenant dans cette nouvelle catégorie purement féminine, qui a raflé le championnat de peu. Moi, je vous dis de garder un œil ouvert sur notre française, car elle n'a pas tout dit. Alors, nous avons parlé d'initiatives, mais pourquoi ne pas parler de quelques icônes? Plutôt une. Moi, je vais vous parler de ma pilote préférée. C'est Michèle Mouton, qui a couru en rallye et que vous connaissez peut-être pour I Don't Feel At All et les edits de rallye sur TikTok. Elle a failli remporter le VRC en 1982 et a également été la première femme à établir un record et à remporter le Pipe's Peak, qui est une course américaine assez notable. Elle a inspiré des générations de filles à joindre le sport automobile et a montré qu'elle n'avait jamais peur de sa concurrence. C'est une femme de caractère qui n'a pas peur de la vitesse et des virages et qui, lors des courses à domicile comme le rallye de Monte Carlo et le Tour de Corse, a montré à ses homologues masculins comment faire le travail. Au volant de voitures emblématiques comme l'Alpine A110, la Peugeot 205 et la plus célèbre Audi Quattro, elle a remporté 5 victoires, 9 podiums et 162 victoires d'étape dans le mythique groupe B. Et avant le ban du groupe B, a également réussi à sécuriser son titre de championnat dans le rallye allemand. Elle est devenue plus tard présidente de la commission féminine de la FIA et a aussi travaillé dans la sécurité. Elle a contribué tout simplement à féminiser l'industrie, qui était à l'époque encore très masculine. Moi maintenant, je vais parler des news. Donc, actuellement, tout le monde hiberne dans le royaume de la F1, ou presque, car les voitures pas encore révélées sont actuellement testées sur différentes pistes. Vous avez très probablement vu les photos de Carlos Sainz au volant d'une Williams ou la photo de Lewis Hamilton arrivant enfin à Maranello, la maison de Ferrari, qui a fait un buzz sur Internet, si je puis le dire. Tout le monde est un peu devenu un fan de Ferrari. C'est le début d'un nouveau chapitre pour le 7e champion du monde, portant du rouge dans l'espoir d'obtenir peut-être enfin son 8e titre de champion. Imaginez le pilote le plus titré obtenant un titre de champion dans l'équipe de course la plus titrée. Cela rendrait plus d'un tifosi heureux, je pense.
Il y a d'autres nouvelles en F1 dont la plupart d'entre vous n'étaient probablement même pas au courant, comme la réglementation. Et oui, je me suis penchée, j'ai lu les documents, c'était très intéressant, mais je vais vous parler du plus intéressant, c'est l'aileron. Vous vous souvenez de ce joli petit aileron arrière flexible de la McLaren l'année dernière qui les a aidés dans leur course au championnat des constructeurs? Pour ceux qui ne le savent pas, la traînée et l'aérodynamisme jouent un grand rôle en Formule 1. Les ailerons arrière qui montent et descendent à certains moments, c'est-à-dire dans la zone DRS, donc c'est des longues lignes bien droites, elles aident à la vitesse. Ces ailerons flexibles, par rapport aux ailerons standards, ont permis à améliorer les performances globales lorsque l'aileron arrière n'était pas abaissé dans les virages. Ces ailerons flexibles, par rapport aux ailerons standards, ont permis d'améliorer les performances globales lorsque l'aileron arrière n'était pas abaissé, notamment dans les virages. Cela a poussé les autres équipes comme Ferrari et Red Bull à se plaindre auprès de la FIA. Et nous voici, une nouvelle réglementation sur la flexibilité. Une autre nouvelle, cette fois plus excitante, un peu plus sympa, qui n'est pas de la réglementation. J'aimerais parler de l'annonce de la toute première femme ingénieure de course. C'est Laura Müller chez Haas qui sera la première ingénieure de course du pilote qui arrive, Esteban Ocon, notre cher petit français. En parlant de diversification du plateau, le directeur de l'équipe américaine, Hayao Komatsu, a également embauché une femme comme responsable de la stratégie. Nous avons vu beaucoup de changements en F1 ces dernières années et je suis heureuse de voir de plus en plus de femmes occuper des rôles importants. Et nous espérons bientôt voir une femme conduire en F1. Et vous, est-ce que vous pensez qu'en 2035, vous allez voir une femme en Formule 1?
Selon moi déjà, il a fallu quand même des années juste pour qu'il y ait une ingénieure dans une équipe.
Ouais.
Je trouve qu'une coureuse, malgré toutes les avancées de la F1 Academy, etc., 2035, je suis assez pessimiste parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un sport tellement fermé pour les femmes. Enfin, il y a un peu cette image-là que c'est pas un sport pour les femmes. Enfin, il y a beaucoup d'a priori.
Ouais.
Oui, oui, cette image, elle est encore très ancrée, je trouve.
En général, dans le motosport, je pense, quand on fait toutes catégories confondues, on ne voit pas vraiment de femmes au volant.
Donc, c'est pour ça, alors, j'espère de tout mon cœur. Et déjà, je pense qu'on va dire en 3 ans, il y a déjà eu plus d'avancées qu'en 25 ans.
Ouais.
J'espère vraiment, mais je suis assez pessimiste, malheureusement.
En vrai, ça peut faire un truc un peu boule de neige. C'est-à-dire qu'on a des femmes maintenant, des trucs de stratégie. Petit à petit, ça va pouvoir amener des femmes beaucoup plus sur le terrain et finalement devenir coureuses, quoi.
Ouais, mais pour 10 équipes, on va dire à peu près en F1, t'as que 2 femmes, quoi.
C'est un peu le problème.
Mais après, le problème aussi, c'est peut-être dans la formation directement, parce que les talents, on veut bien, oui, amener des femmes, mais il faut qu'elles soient aussi performantes, parce que amener des femmes pour amener des femmes, c'est pas le but, mais peut-être dans la formation, améliorer quelque chose, je sais pas, dans le recrutement.
Inclure beaucoup plus de femmes, pousser beaucoup plus de femmes à essayer tout ça et pas les décourager dès le début.
Les accompagner, les former. Mmh.
Après, le problème dans tout ça, en fait, que je trouve, c'est par exemple la F1 Academy, on les fait que courir entre femmes, ce qui est déjà super bien parce qu'on peut les voir à la télé, elles ont de leur propre compétition, mais après, elles ne sont pas vraiment intégrées au circuit F1.
Réel.
Donc, quand elles gagnent, par exemple, l'année dernière, c'est Maria Gracias, je ne me rappelle plus du nom, mais elle a gagné, elle a eu un siège en Formule 4 régionale, qui est le niveau en dessous de la Formule 3 quand même.
Ouais.
Donc elle ne monte pas vraiment en fait, elle a un siège qui est sponsorisé pour qu'elle aille faire des performances autre part, mais elle ne monte pas vraiment de grade en fait. C'est,
sûr. Ouais, faudrait qu'il
c'est un petit aparté.
Ouais, faudrait qu'il y ait une meilleure récompense et qu'on leur laisse plus la chance de monter, quoi.
Oui, voilà.
Ou tout simplement aussi les intégrer rapidement avec une course, enfin dans une course mixte.
Mm.
Mais ouais. Pour l'instant, il y a des avancées, mais c'est pas assez, quoi.
C'est pas... Mais en fait, c'est que c'est devenu tellement complexe, la Formule 1. Dans les années 60, c'était plus tu montes dans ta voiture, si tu finis ton tour, tout va bien. Mais maintenant, c'est de l'électronique, t'as des race engineers, t'as des stratégies, t'as des pizzas. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué, donc en fait...
T'as tout ce côté technique qu'il n'y avait pas avant, en tout cas qui était primordial. C'est limite si la course en elle-même n'est pas au second plan des fois.
Mais voilà. Mais moi j'y crois d'ici 2050, si on fait une plus grosse date.
Alors déjà, merci Manon, parce que ta question fait une bonne transition pour ma chronique. Et de mon côté, le petit point du jour dont j'aimerais vous parler, c'est d'une petite news dans le football féminin, parce que ça y est, on se rapproche un peu de l'égalité. Alors non, j'exagère, l'égalité entre les hommes et les femmes dans le football et le sport en général n'arrivera probablement pas de notre vivant. Du moins, pas complètement. mais je pense qu'il est quand même important de relever les évolutions lorsqu'il y en a, car si on n'en parle pas, les choses cesseront de s'améliorer. Et aujourd'hui, on va parler mercato, le mercato d'hiver. Alors pour ce début d'année 2025, un nouveau record a été battu, celui du transfert le plus cher de l'histoire. Alors non, on ne parle pas des 222 millions d'euros de Neymar pour son transfert du Barça à Paris, mais d'1,05 million. La somme n'est pas la même, on est d'accord. Là, pour l'instant, on reste sur une somme de Ligue 2, mais bon, ça reste un record. Et qui est l'heureux élu ? Roulement de tambour, Naomi Girma, l'internationale américaine de 24 ans en provenance de San Diego, est arrivée à Chelsea pour, je répète, la somme d'1,05 million d'euros. Alors pour vous parler un peu de qui est cette joueuse, Naomi Girma est défenseuse centrale. Elle a gagné avec l'équipe des États-Unis une médaille d'or aux JO de Paris 2024. Elle a été aussi élue meilleure joueuse américaine de l'année 2020 et son talent a notamment explosé à San Diego où elle a été draftée en 2021. Son ancienne entraîneuse Emma Hayes la considère d'ailleurs comme la meilleure défenseuse qu'elle a jamais vue. Elle a dû en manger des coquillettes pour devenir aussi forte. D'ailleurs, l'OL l'avait aussi approchée, mais la jeune joueuse a préféré Chelsea, trouvant que l'équipe anglaise a cette culture de la victoire. L'ancienne joueuse de l'OL qui est partie à San Diego, donc l'ancienne équipe de Naomi Girma, l'été dernier, et c'est Delphine Cascarino qui était justement à l'OL. Quelle coïncidence! Parler de Chelsea me permet de faire une petite parallèle sur la Ligue anglaise qui a mis un gros sprint à l'Arkema Premier League, malgré les nombreuses mesures que l'Arkema Premier League a mis en place afin d'éviter de se faire semer. J'en ai d'ailleurs parlé dans un des derniers épisodes de Time Out, donc je vous invite à aller écouter. Certains considèrent la Premier League féminine comme la meilleure ligue devant la Prima Iberdrola d'Espagne, donc là où se trouve le Barça, et l'Arkema Première Ligue, donc la Ligue 1 française féminine. Donc la Première Ligue a dû en boire des canettes de Red Bull pour survoler tout le monde. Ce sprint, on le voit bien, les joueuses se tournent de plus en plus vers la Première Ligue et moins vers l'Arkema Première Ligue, et Chelsea, selon le classement UEFA, est placé 3e derrière le Barça et l'OL, ce qui est quand même vraiment pas mal. Donc il va pas falloir se reposer sur ses lauriers et dans son peignoir encore très longtemps, parce que Chelsea est parti à l'attaque. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Time Out et je vous fais des gros bisous.
Bye, à la prochaine.